Merci Marc pour cette introduction et puis merci surtout pour cette invitation à participer à ce cours sur CO2. Je te remercie d'avoir eu l'idée de développer cette série de présentations et de lectures. On a pu le voir dans les séances précédentes, le sujet est extrêmement vaste, il est extrêmement complexe, mais il est aussi extrêmement riche et extrêmement stimulant pour les chercheurs. Et je crois qu'à travers ton panorama, on se rend bien compte de cette diversité et de l'intérêt à la fois académique, mais aussi en termes d'enjeux pour nos sociétés, à travailler sur la transformation, la valorisation, la réduction de CO2. Alors, je voudrais commencer ce séminaire en remerciant un certain nombre de personnes. Alors, pourquoi je fais ça au début du séminaire ? Parce qu'il faut bien comprendre que dans un monde comme le nôtre où la recherche est mondialisée, elle a aussi une caractéristique particulière, c'est qu'elle se fait en équipe et en groupe. Et c'est sans doute un des avantages du système français que de s'appuyer sur des groupes de personnes et non pas seulement sur des individus qui ensemble sont capables de produire des choses que peut-être ils n'arriveraient pas à produire s'ils étaient tout seuls. Et donc, au cœur de ce système, un certain nombre d'étudiants, donc je voudrais plus particulièrement mentionner Samuel Drouet qui a été postdoc dans notre équipe et puis Guillaume Passard qui est en train de terminer sa thèse sur le sujet de la réduction du CO2. Tous les deux, depuis un certain nombre d'années, se sont investis énormément dans ce travail d'étude de la réduction électrochimique du CO2. Et c'est grâce à leur implication qu'un certain nombre de résultats importants ont été mis à jour. Alors, ces autres étudiants ici, dont vous voyez les photos, ont repris le flambeau et ont, sous divers aspects, contribué eux aussi aux travaux dont je vais parler, même si leur contribution s'étend aussi à d'autres aspects. Dans le laboratoire, il y a aussi un certain nombre de permanents. Julien Bonin, qui lui s'occupe plus particulièrement d'aspects que je développerai en toute fin de présentation et qui sont liés à la photoréduction de CO2. Je ferai une petite ouverture sur les séminaires qui vont venir. Et puis, bien sûr, deux personnalités importantes, Jean-Michel Savéon, dont le nom a déjà été mentionné à plusieurs reprises dans ce séminaire, qui a contribué et qui continue à contribuer de façon extrêmement importante à la catalyse moléculaire de façon générale et en particulier à la réduction de CO2. Et puis Cyril Constantin, qui au sein du groupe apporte des contributions à la fois théoriques et mécanistiques absolument essentielles. Et une grande partie du travail qui est présenté ici doit à son investissement et à ses énormes capacités et son travail. Alors, pourquoi étudier la réduction de CO2 ? C'est des choses que vous avez déjà vues, mais je voudrais refixer des ordres de grandeur avec vous en un ou deux transparents pour rappeler des choses qui sont importantes si on veut comprendre les enjeux de la réduction de CO2. Donc la production anthropogénique de CO2 dans l'atmosphère, on est à peu près à 35 milliards de tonnes par an. Et vous savez que cette production anthropogénique, va être en partie absorbée par l'environnement qui nous entoure. Elle va être en partie absorbée par la biomasse, elle va être en partie absorbée par dissolution dans les océans, mais une partie également du CO2 va rester dans l'atmosphère. Si on essaye de quantifier ces choses-là, c'est des transparents que vous avez déjà vus pour ceux qui ont assisté au début du cours, eh bien, à la louche, environ la moitié du CO2 anthropogénique reste dans l'atmosphère. Vous savez que ce CO2 est extrêmement inerte, a une durée de vie assez longue, et donc il contribue de façon particulièrement massive au réchauffement climatique et à la modification de la biosphère et donc de nos environnements. Donc typiquement, on est sur une accumulation annuelle autour de 15 gigatonnes de CO2. Si on regarde maintenant le recyclage industriel du CO2, son utilisation, on est sur des chiffres qui sont dans des ordres de grandeur qui n'ont plus rien à voir. On est typiquement autour de 150 millions de tonnes par an, soit autour de 0,5% de ce CO2 anthropogénique. Il y a donc là une marge de manœuvre aussi, un terrain de jeu pour les chimistes absolument énorme, de par ce différentiel. Et vous voyez que le travail à faire est absolument considérable. Alors, si on s'intéresse à la réduction de CO2, ça va donc être pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a ces quantités énormes de CO2 qui vont pouvoir servir de matière de base pour l'industrie et pour la valorisation dans différents produits. Ce faisant, on peut contribuer à la diminution des émissions anthropogéniques de CO2 si on est capable de capter ce CO2 là où il est produit, c'est-à-dire essentiellement sur les sites industriels. Et puis, bien sûr, ça a été largement développé par Marc Fontcave, mais je vais y revenir à plusieurs reprises, c'est un moyen de stocker les énergies intermittentes, en particulier l'énergie solaire. Un chiffre, là aussi, vous le connaissez, il a déjà été dit, en une heure d'insolation de la planète Terre, on reçoit plus d'énergie que tout le système des humains sur la Terre en consomme en un an. Ça fixe aussi là des idées qui sont assez intéressantes. Alors, la catalyse de réduction de CO2, ça vous a été montré dans l'heure précédente, on peut aboutir à tout un tas de produits tout à fait intéressants en fonction du nombre d'électrons et de protons qu'on va pouvoir injecter dans ce système à l'aide généralement d'une électrode et puis d'un catalyseur moléculaire qui va aider à vaincre les barrières cinétiques qui rendent ces transformations peu efficaces. Le monoxyde de carbone est un de ces produits, l'acide formique, vous voyez ici le méthanol qui peut être utilisé dans des batteries, le méthane, donc un hydrocarbure, avec là la possibilité de faire des carburants synthétiques, mais aussi tout un tas d'autres produits dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais qui ont été évoqués dans les séances précédentes et qui seront évoqués dans les séances suivantes. Vous voyez ici des carbonates, avec ce motif CO3 de moins ici, soit sous forme cyclique, soit sous forme linéaire. Et puis l'urée, qui est évidemment un produit absolument essentiel pour l'agriculture. Alors j'aime bien représenter les choses pour la réduction du CO2 sur une petite horloge. C'est une petite horloge à remonter le temps, en fait. Cette horloge, généralement, en avance, celle-ci sert à remonter le temps. Alors on part de CO2, qui est donc rejeté, considéré comme un déchet, puis on va essayer de le réduire. Alors si on met un électron dans CO2, on peut faire une molécule qui s'appelle l'oxalate, c'est donc le produit de dimérisation du radical anion du CO2. À deux électrons, un électron supplémentaire, vous allez pouvoir faire du monoxyde de carbone et de l'acide formique. Deux électrons supplémentaires, on arrive déjà à quatre, vous allez faire du formaldéhyde. Six électrons vont vous permettre d'obtenir du méthanol. Et enfin, huit électrons, vous terminez la boucle et vous avez le produit de réduction ultime à huit électrons, le méthane. Donc ce faisant, on est parti du CO2, qui est finalement le produit de notre histoire. C'est l'histoire géologique qui a fait des hydrocarbures. On brûle ces hydrocarbures et on fait du CO2. En prenant CO2 et en le réduisant, eh bien, on refait ces hydrocarbures. Donc on rentre ici dans un cycle qui permet de faire des carburants synthétiques et ainsi de boucler sur notre histoire géologique. Alors, évidemment, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'électrons, beaucoup de protons. Ça a été particulièrement bien expliqué et mis en valeur par Marc Fontcave. C'est un processus qui est compliqué sur un plan cinétique, qui va demander des surtensions et qui va donc demander l'aide de catalyseurs, soit des catalyseurs surfaciques, soit des catalyseurs moléculaires, soit des catalyseurs sous forme de matériaux. En tout cas, il va falloir aider cette molécule de CO2 de façon à ce qu'elle soit réduite. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, là, normalement, il y a un petit carré, il devrait y avoir un petit rond, mais ce n'est pas grave, on va supposer qu'il y a un petit rond. Le deuxième problème, c'est qu'intrinsèquement, CO2 est très, très difficile à réduire. Les deux liaisons carbone-oxygène sont très solides, c'est une molécule linéaire dans laquelle le carbone au centre a une hybridation de type sp. Si vous mettez un électron dans CO2, vous allez le courber, vous allez faire un radical anion qui va avoir un angle, vous allez changer l'hybridation du carbone, et ça coûte une énergie extrêmement importante. On peut mesurer, avoir une idée de cette énergie en regardant le potentiel standard du couple CO2, CO2 point moins, donc le produit de réduction à un électron de CO2, vous voyez, on est autour de moins 2 volts, l'énergie est considérable. Et donc, pour attaquer ce problème, difficulté d'injecter le premier électron dans CO2, difficulté parce qu'il va falloir mettre plusieurs électrons et plusieurs protons pour faire une catalyse et aboutir à des produits stables, mais il y a deux types d'approches. Là aussi, on a eu un aperçu particulièrement détaillé de tout cela. La première approche, c'est la catalyse moléculaire, c'est-à-dire que l'électrochimie va être là simplement pour donner des électrons à votre catalyseur moléculaire qui, lui, va faire le travail de catalyse vis-à-vis de CO2. Donc, une certaine énergie électrique, une énergie de polarisation de votre électrode qui, si elle est suffisamment importante, va permettre de faire passer des électrons de la solution vers le catalyseur, du catalyseur vers CO2. Donc ça, ça implique essentiellement des métaux de transition à bas degré d'oxydation. Et puis la deuxième approche, c'est par exemple ce qui se passe avec les électrodes à cuivre, dont on a entendu parler dans les dernières minutes du cours. Eh bien, c'est une approche dans laquelle le matériau d'électrode lui-même va jouer un rôle catalytique vis-à-vis du CO2. Et là, il y a eu beaucoup de travail sur le cuivre, et on a vu même des choses nouvelles aujourd'hui, des choses pas encore publiées. Et puis également, on peut mentionner des métaux comme le platine et le palladium, un certain nombre d'études ont été faites concernant cette approche d'électrocatalyse. Alors, ce sur quoi je vais me focaliser moi aujourd'hui, c'est l'approche moléculaire, une approche dans laquelle, en plus de l'électrode, j'ai un complexe de métal de transition représenté ici, qui va prendre des électrons de l'électrode et puis qui va, en conjonction avec des protons, et on verra que le rôle de ces protons est essentiel, permettre de transformer CO2, par exemple, en monoxyde de carbone ou en acide formique. Et je vais plus particulièrement me focaliser sur une réaction de réduction à deux électrons du CO2, c'est la transformation en CO, en monoxyde de carbone. Alors vous voyez, quand on regarde CO2 donne CO, on se dit, mais il n'y a pas besoin de protons dans cette histoire. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? On casse une liaison carbone-oxygène. Oui, mais pour casser cette liaison carbone-oxygène, si vous écrivez le bilan de la réaction, vous voyez que vous produisez une molécule de CO, mais ce faisant, vous produisez deux molécules d'OH-, et pour ça, il faut une molécule d'eau. C'est-à-dire que pour aider à la coupure de la liaison carbone-oxygène qui va vous faire passer de CO2 à CO, vous avez besoin d'un proton pour tirer sur cette liaison. Alors pourquoi s'intéresser plus particulièrement à CO2-CO ? Vous pouvez vous dire, mais CO, c'est bizarre, on m'a dit que c'était quelque chose de très dangereux et de très toxique. Le monoxyde de carbone, on peut s'intoxiquer avec ça. Pourquoi diable les chimistes s'intéressent-ils autant à cette molécule de CO ? Déjà, faire CO2-CO est d'une extrême difficulté. Ce n'est pas encore réellement très bien maîtrisé. Donc il y a déjà des enjeux scientifiques de compréhension intime de ce qui se passe qui sont énormes. Mais CO, c'est aussi le point de départ vers les carburants synthétiques. Alors, c'est via un procédé qui s'appelle le procédé Fischer-Tropsch, qui permet, à partir de CO, par mélange avec de l'hydrogène, de faire des hydrocarbures. Donc si on est capable de maîtriser la transformation de CO2 en CO, c'est quand même un pas important vers la fabrication des carburants synthétiques. Et puis d'autre part, je l'ai mentionné il y a quelques secondes, comprendre la façon dont ces réactions se passent, eh bien, c'est une étape préliminaire absolument nécessaire pour faire des choses un peu plus complexes dans lesquelles on va accrocher des catalyseurs sur des surfaces, mettre des catalyseurs dans des matériaux poreux, comme ça a été suggéré tout à l'heure, ou utiliser de la lumière directement pour transformer CO2 en CO. Si on veut vraiment développer ce type d'approche, eh bien, il faut d'abord comprendre la façon dont on peut réduire CO2 en CO ou en d'autres molécules. Alors, juste un mot sur Fischer-Tropsch, pour ceux qui, certains d'entre vous, ne savent peut-être pas ce que c'est finalement mélanger du monoxyde de carbone avec de l'hydrogène pour faire des hydrocarbures, donc typiquement des carburants. Alors, c'est un procédé qui a été développé, comme beaucoup de procédés de la chimie industrielle en Allemagne dans la première moitié du XXe siècle, qui est un peu tombé en désuétude à l'époque des Trente Glorieuses, dans les années 60, puisque le pétrole était extrêmement abondant et peu cher, et puis qui, évidemment, revient un petit peu à la mode au fur et à mesure qu'on parle de peak oil, qu'on parle de plus grande difficulté d'accès aux sources de pétrole et à l'augmentation du prix du pétrole. Pour fixer cette idée-là, il faut savoir que l'armée américaine a remis en marche des études sur le procédé Fischer-Tropsch et fait fonctionner un avion de chasse avec du liquide d'origine synthétique produit par Fischer-Tropsch. Donc c'est aussi des enjeux qui deviennent, au fur et à mesure où les réserves en pétrole deviennent moins abondantes, un enjeu plus stratégique. Alors, on utilise beaucoup l'électrochimie. Alors, ça a été là aussi présenté. L'électrochimie, finalement, c'est, je mets une électrode dans une solution et je mesure un courant en fonction du potentiel que j'applique à mon électrode. Donc ce que vous allez mesurer, c'est un courant, c'est-à-dire un flux d'électrons qui va passer, par exemple, de l'électrode à la solution. Donc vous mesurez un flux d'électrons qui passe de l'électrode à la solution, un flux par unité de temps. Donc ce que vous mesurez, en fait, quand vous mesurez un petit courant électrique, une électrode, vous mesurez une vitesse. Donc en fait, toute la puissance de l'électrochimie est là. Elle est que c'est une méthode qui vous donne un accès direct à la vitesse des réactions qui se passent dans la solution. Et donc si vous êtes capable d'interpréter les courbes, les spectres que vous obtenez, eh bien, vous allez pouvoir en extraire des informations sur les constantes de vitesse qui caractérisent le fonctionnement de votre système en solution. Donc voilà un petit peu toute la philosophie de l'affaire, qui consiste en voltamétrie cyclique plus particulièrement, à appliquer un potentiel qui varie avec le temps, et à chaque pas de potentiel, à mesurer un courant. Alors on obtient des courbes qui ont des formes de canard, comme ça. Avec ici, je transforme A en B quand je vais vers des potentiels négatifs, de la gauche vers la droite, et puis quand je reviens, je retransforme B en A, donc je suis un chemin comme ça, et puis je reviens. Et bien de ce courant ici, dans la phase de montée du spectre, on va pouvoir en tirer des informations sur la vitesse de la réaction. Alors, par contre, on n'aura pas d'informations sur cette partie de la courbe où le courant redescend ici, donc la courbe elle est obtenue comme ça. On n'obtient pas d'informations ici parce que là on est à des potentiels qui sont très négatifs, on a des électrons qui sont très énergétiques, donc le système n'est plus contrôlé par la vitesse du transfert d'électrons, mais tout simplement par la vitesse avec laquelle les molécules arrivent physiquement jusqu'à la surface de l'électrode. Donc dans cette partie-là, on est contrôlé par un processus qui est purement physique, qui s'appelle la diffusion, et qui est lié au fait que les molécules, pour qu'elles prennent des électrons, doivent se trouver au très proche voisinage de la surface de l'électrode. Donc toute l'information sur la cinétique, sur la vitesse des processus, est contenue dans cette partie ici du spectre. Alors c'est typiquement ce qu'on fait en voltamétrie, on va voir tout à l'heure un petit peu comment ça marche. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse avant d'attaquer le côté dur de la présentation. C'est la parenthèse « toutes les technologies ne se valent pas ». Alors, c'est important pour comprendre l'intérêt de l'électrochimie. Et pour faire ça, je voudrais partir d'une notion qui est la notion d'outil convivial qui a été développée par un philosophe de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'appelait Ivan Illich, qui est mort au début des années 2000 et qui a développé dans un livre qui s'appelle « La convivialité » un concept qui est assez intéressant et qui consiste à réfléchir à la possibilité de développer une société future qui serait extrêmement moderne mais qui ne serait pas nécessairement dominée par l'industrie. Et donc, il appelle cette société la société conviviale, qui serait une société dans laquelle les technologies modernes servent les individus, qui sont des individus politiquement interdépendants et non des gestionnaires. Donc l'idée, ce serait que l'outil convivial est un outil qui est maîtrisé par les gens, de façon à façonner le monde au gré de l'intention collective et individuelle de ces gens, de leur imagination et de leur créativité. C'est-à-dire que ce sont une société dans laquelle il y a un certain nombre d'outils qui rend les gens autonomes vis-à-vis de leur destinée, de ce qu'ils souhaitent faire. Donc, pour Ivan Illich, un outil convivial doit remplir trois conditions. Il doit susciter ni maître ni esclave, il doit élargir le rayon d'action personnelle de chaque individu, et il doit être générateur d'une efficience, une efficience sociale, économique, culturelle, sans dégrader l'autonomie des gens. Donc, des exemples d'outils conviviaux, un vélo, c'est convivial, un téléphone, c'est un outil convivial, une cellule d'électrochimie, je considère que c'est un outil convivial, vous pouvez la bricoler dans votre garage avec vos voisins, si vous le souhaitez, c'est presque possible. Par contre, un outil non convivial, c'est une centrale nucléaire. Et donc, je situe ici la responsabilité du scientifique, non pas dans une approche politique, idéologique ou dogmatique des questions scientifiques et de leur rôle pour résoudre leurs problèmes, mais dans la capacité à développer des outils qui respecteraient ces critères de convivialité et qui permettrait effectivement d'apporter ou de contribuer à apporter un certain nombre de solutions aux problèmes qui se posent à nous. Donc j'ai la faiblesse de penser, j'ai peut-être tort, que l'électrochimie permet de mettre en œuvre des outils conviviaux. Cette parenthèse étant refermée, pour réduire CO2, il faut donc des catalyseurs. Alors, on peut trouver de l'inspiration dans la nature. Marc Fonca va, dans un cours précédent, parler de la réduction de CO2 à l'aide d'enzymes et d'objets issus directement de dame nature. Donc ici, quelques exemples de choses qu'il vous a montrées. Des choses qui peuvent être mises en œuvre sur des électrodes. C'est ici l'exemple d'une enzyme formate déhydrogénase qui permet de transformer de façon réversible le CO2, le réduire en acide formique et de réoxyder l'acide formique en CO2. Alors, vous voyez ici des courbes d'électrochimie qui montrent vers les potentiels positifs l'oxydation de l'acide formique en CO2 et vers les potentiels négatifs, la réduction de CO2 en acide formique. C'est très joli, mais c'est très difficile à faire et il faut faire des mesures très très vite puisqu'en quelques minutes, votre enzyme n'est plus active. Alors, une autre approche, c'est évidemment d'utiliser des complexes de métaux de transition, comme je le signalais dans un de mes transparents préliminaires tout à l'heure. Alors, un système qui a été beaucoup étudié, et Marc Fonca l'a signalé là également, c'est un complexe de rhénium. Ici, vous voyez avec ce métal ici qui est un métal avec sa sphère de coordination autour de lui qui comprend des molécules de CO et puis ici une bipyridine. Alors, il a été proposé dans les années 80, c'est des travaux pionniers de Jean-Marie Laine. On se demande parfois dans quel domaine de la chimie n'a pas contribué de façon décisive, c'est tout à fait impressionnant. Quel que soit l'endroit de l'horizon où on regarde, on finit par trouver son nom. C'est à ce jour probablement l'un, sinon le complexe le plus actif vis-à-vis de la réduction de CO2 en CO avec une extrême stabilité. Et ça a évidemment inspiré beaucoup ce champ lorsqu'il a repris des couleurs au milieu des années 2000. Alors, une des limites peut-être de ce complexe, c'est son prix. Alors, si on regarde maintenant le marché des métaux, parce que ça c'est quand même une dimension qui est importante si on pense aussi à plus moyen et long terme en termes d'application. Si vous regardez le rhénium, c'est 14 000 euros le kilo, il y en a 50 tonnes produites par an et quasiment exclusivement issues du Chili. Il est difficile de croire qu'on puisse utiliser ce métal à une très très large et vaste échelle pour des applications dans un futur futile de moyen terme. On peut regarder un autre métal dont on a entendu parler à l'heure précédente et qui a aussi conduit à des catalyseurs assez intéressants, notamment pour obtenir de l'acide formique, c'est le ruthénium. On est un petit peu moins cher, mais on reste à des prix totalement prohibitifs. 2400 euros le kilo, seulement 12 tonnes produites par an, essentiellement Afrique du Sud et Russie. Alors après, si on regarde les métaux de transition dont Marc Fonca nous a parlé et sur lesquels lui et d'autres travaillent, eh bien évidemment, il y a des métaux qui sont quand même moins chers et sur lesquels il faut se focaliser. On peut penser au nickel, au cobalt, au manganèse et au fer. Le cuivre, évidemment. Mais je parle ici de catalyseurs moléculaires. Alors, le cobalt, 28 euros le kilo, on en produit 55 000 tonnes par an, essentiellement en Afrique et en Finlande. Le nickel, le prix baisse encore un peu. 16 euros le kilo, 1 million de tonnes, avec, vous voyez ici, la France qui apparaît, c'est des productions de nickel issues de Nouvelle-Calédonie. Le manganèse, c'est le 12e élément le plus abondant sur Terre, 1,8 euros le kilo, 55 millions de tonnes, donc là, on commence déjà à être sur des tonnages beaucoup plus importants, donc le minerai de manganèse est quand même relativement accessible, avec les principaux acteurs que sont la Chine, l'Afrique du Sud et l'Australie. Et puis, le dernier, eh bien, c'est le fer. C'est le métal le plus abondant à la surface de la Terre. Là, le prix est vraiment très très bas. On est à 16 centimes d'euros le kilo. Et on est à des quantités produites annuelles qui sont quand même considérables, puisqu'on est à 2400 millions de tonnes par an, avec une production assez diversifiée à la surface de la Terre. Donc évidemment, dans des perspectives d'application, il faut quand même avoir ça en arrière-plan. Je crois que c'est important. Le cobalt, le nickel, le manganèse et le fer, oui. Le cuivre, oui. Le rhénium et le ruthénium, non. Alors, deux grands principes de base pour comprendre cette catalyse de réduction moléculaire, vous allez voir, finalement, c'est assez simple. Il va falloir faire plusieurs choses. La première chose qu'il va falloir faire, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir réduire ce CO2 pour le plier. Ça va être la première étape. Donc, il va falloir être capable de transférer un électron pour courber, plier ce CO2 et ainsi générer un intermédiaire relativement stable. Donc, c'est le métal, le complexe métallique réduit à l'électrode qui va jouer ce rôle et qui va se coordonner à CO2 en le réduisant. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir aider à la coupure de la liaison carbone-oxygène. Il va falloir enlever un oxygène du CO2. Et pour ça, il va falloir s'aider d'un camarade qui va être un acide et qui va permettre de catalyser la coupure de la liaison entre le carbone central et un des deux oxygènes. Donc on va être dans des mécanismes qui sont très bien connus en catalyse et en chimie moléculaire, qui sont des mécanismes qu'on appelle push-pull, push pour pousser les électrons, pull pour tirer sur la liaison carbone-oxygène. Alors, pour faire ça, on est reparti d'une chimie assez ancienne, développée depuis assez longtemps au laboratoire, qui est la chimie des porphyrines, qui est une chimie très très bien connue, et pour laquelle le laboratoire avait apporté un certain nombre de contributions intéressantes dans les années 80 et 90, notamment en utilisant ces structures-là, ces porphyrines tétraphéniles ici, où vous voyez que si on met ces complexes en solution et qu'on en regarde la signature électrochimique, eh bien on peut générer des états redox qui sont le fer 3, le fer 2, en mettant un électron sur le fer, un électron supplémentaire, vous générez le fer 1, et un électron supplémentaire encore, vous générez le fer 0. Et vous voyez que ces différents états redox du fer sont stables dans la gamme de temps des expériences. C'est-à-dire que si vous générez du fer 0, eh bien il reste là en solution, sans être détruit chimiquement ou sans être consommé par des réactions trop rapides. Donc ces complexes sont particulièrement intéressants parce que le fer 0 a un grand appétit pour CO2. Le fer 3, non. Le fer 2, non. Le fer 1, très peu. Le fer 0, beaucoup. Donc si on rajoute un petit peu de CO2 dans cette solution ici dont je vous ai montré la trace par voltamétrie, eh bien, et si on regarde plus spécifiquement ces deux vagues-là, c'est-à-dire fer 2, fer 1 et fer 1, fer 0, voilà ce que ça donne, c'est la courbe en rouge ici. Donc là, vous avez la vague fer 2, fer 1, celle qu'on avait au milieu sur le transparent précédent. Vous voyez qu'en présence de CO2, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, au voisinage du potentiel fer 1, fer 0, vous avez une exaltation du courant qui traduit un phénomène de catalyse, un phénomène de catalyse de réduction de CO2, on va le voir, en CO. Donc on a un schéma réactionnel global qui pourrait se traduire de la façon suivante. Le fer 1 est réduit en fer 0 avec un électron qui est donné par l'électrode. Et en présence d'une molécule d'acide, eh bien, la molécule de CO2 va être transformée en CO, libérant une molécule de OH- et une molécule d'acide déprotonée. Alors vous voyez que ce CO est à ce stade encore accroché sur le fer, puisque le fer est devenu fer 2 et le fer 2 a un grand appétit pour CO. Mais comme on a des potentiels négatifs, eh bien, il y a un deuxième électron qui passe, qui vient réduire le fer et qui libère sa petite bulle de CO. Alors comment est-ce qu'on peut savoir tout ça ? On s'est placé dans des conditions qui sont un peu particulières, là aussi ça a été mentionné par Marthe Poincaré, on s'est placé dans un solvant qui est un solvant organique, on n'est pas dans l'eau. Ce solvant s'appelle le DMF, c'est du diméthylformamide, solvant dans lequel le CO2 est très soluble, donc quand vous faites buller du CO2, il s'accumule dans la solution. Par contre, le CO, lui, est très peu soluble dans le DMF. Donc dès qu'il y a une petite bulle de CO, ça sort de la solution et ça se met dans la phase gaz au-dessus de la phase liquide. Donc vous pouvez, par des méthodes de chromatographie, par exemple de chromatographie en phase gaz, doser le contenu en gaz de votre phase gazeuse et détecter le CO, non seulement qualitativement, mais aussi quantitativement. Donc on peut mesurer que le CO est effectivement produit et produit dans avec des très bons rendements. Alors cette catalyse, on a observé qu'elle était particulièrement efficace si on ajoutait des acides dans la solution. Ce fameux AH ici qui joue dans le schéma push-pull qui joue son rôle dans l'état pull. Alors on a observé que ça marchait non seulement avec des acides faibles, comme des alcools, ça peut être du phénol, du trifluoroéthanol, ça peut être de l'eau, ça peut être d'autres choses encore, dont les pK seraient voisins, mais ça marche aussi avec d'autres types d'acides, des acides de Lewis, ça marche aussi avec du calcium, avec du magnésium, par exemple. Donc quand on a un schéma en tête comme ça, l'étape d'après, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux le mécanisme de la catalyse. Alors, pour comprendre le mécanisme de la catalyse, il faut lire dans le mar de voltammogramme. Certains regardent dans le mar de café, d'autres boules de cristal. Nous, on lit dans le mar de voltammogramme. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand on mesure un courant, ce qu'on mesure finalement, c'est une vitesse d'une réaction. Vous allez me dire... D'accord, on mesure une vitesse de réaction, mais là, on en a plein des réactions. C'est quelle vitesse qu'on mesure, et puis comment on obtient vraiment cette constante de vitesse. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment ça se passe? Alors, ça se passe de la façon suivante. Quand on a un mécanisme catalytique, on a habituellement une courbe de voltammétrie qui présente non pas la forme d'un pic, mais d'un palier. Si vous regardez là, on a presque un palier, pas tout à fait... quelque chose qui ressemble un peu à un palier. Alors, quand on met le système réellement en équation, on s'aperçoit que le courant en fonction du potentiel augmente lorsqu'on va vers les potentiels négatifs et présente la forme d'un palier. Ce palier, on peut le mettre en équation. C'est l'équation qu'il y a ici, la relation courant-potentiel. Et la hauteur de ce palier va être fonction notamment de la constante de vitesse de la réaction chimique, constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante. Donc si vous retracez ce courant, non pas sous la forme d'un S comme ça, mais sous la forme d'une courbe, en retravaillant simplement cette courbe et en la regardant en fonction de non pas courant potentiel, mais courant en fonction de 1 sur 1 plus l'exponentielle du potentiel, eh bien, vous avez ici une droite dont le coefficient directeur, la pente de la droite ici, va vous donner accès à cette constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante. Alors, tout ça, c'est magnifique, c'est bien beau, sauf que en pratique, ça se passe rarement comme ça. En pratique, il y a plein de phénomènes secondaires qui viennent malheureusement modifier la forme de la courbe, la forme théorique en S. Alors, vous avez trois types de phénomènes secondaires. Vous pouvez avoir une consommation du substrat durant la catalyse qui vous fait chuter votre courant. Donc le courant monte, et au lieu d'atteindre son palier, à un moment, vous n'avez plus de substrat à transformer, plus de CO2 à transformer, donc le courant se casse la figure. Donc vous n'avez pas un palier, mais vous avez en fait un pic. Le courant redescend. Vous pouvez avoir une désactivation du catalyseur pendant qu'il fait son travail. Et à ce moment-là, il n'y a plus assez de catalyseur pour transformer CO2, et donc à nouveau, le courant se casse la figure. Et puis, vous pouvez avoir une inhibition tout simplement de la surface par les produits de la catalyse. Imaginez, vous faites du CO. CO, ça fait des petites bulles. Imaginez que les bulles viennent faire une petite couche à la surface de l'électrode qui devient isolante, par exemple. Et bien, votre courant va se casser la figure. Donc, vous avez tout un tas de configurations possibles qui viennent vous embêter, qui viennent perturber le signal électrochimique théorique et qui font qu'au lieu d'avoir des beaux paliers comme ça en bleu, et bien, on peut avoir des courbes qui sont... qui s'arrêtent, qui atteignent des courants maximum beaucoup plus faibles, et donc on s'écarte de la forme théorique prévue. Alors on s'écarte de la forme théorique prévue, ici c'est deux exemples pour une inhibition provoquée par la consommation du substrat, donc de haut en bas c'est une consommation de substrat de plus en plus forte. Ici, inhibition par un produit qui vient bloquer l'électrode, avec une inhibition de plus en plus forte de haut en bas. Par contre, si vous regardez ici, dans la phase où les courants sont petits, évidemment, quand les courants sont petits, ces phénomènes d'inhibition sont minimaux. Et donc, dans cette phase où le courant est relativement faible, ici, ou là, eh bien, vous avez un comportement de la réponse électrochimique qui est très proche, quasiment superposable, au comportement théorique lorsqu'on a une courbe avec un plateau. Donc, l'idée va être non pas d'utiliser toute la courbe expérimentale obtenue, mais la courbe simplement dans une zone de potentiel où on pourra se dire avec suffisamment d'arguments raisonnables qu'on est très proche de la courbe théorique. Donc c'est ce qui est représenté ici sur ce graphe. Vous voyez la courbe théorique en bleu est une droite. On s'écarte de plus en plus de cette droite lorsqu'on a la consommation du substrat comme phénomène secondaire. Mais dans cette zone-là, ici, toutes les courbes se superposent. Elles ont toutes la même pente. Pente qui nous donne accès à la constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante. Alors on peut faire ça. Et on peut faire ça en faisant varier plusieurs paramètres. Vous pouvez faire varier comme paramètre la concentration en CO2, vous pouvez contrôler la concentration de CO2 en solution, et vous pouvez contrôler la concentration en acide que vous ajoutez pour que la catalyse se passe bien. Et vous allez obtenir ce qu'on appelle des ordres réactionnels, c'est-à-dire combien de molécules de CO2 il faut par molécule de substrat pour que la réaction se passe bien. Donc ici, ce sont des courbes obtenues avec des concentrations en CO2 qui augmentent, de bas en haut, donc vous voyez que plus on met de CO2, plus on a une catalyse importante, et ça c'est les fameuses droites obtenues par traitement de ces courbes. Donc vous voyez qu'on a des choses qui s'écartent un peu des droites, là, 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 lorsque les courants deviennent très grands, mais dans toute cette zone-là ici, on a très raisonnablement des droites parfaitement linéaires. Ça tombe bien, les droites linéaires c'est pas mal. Et donc vous pouvez, en fonction de la concentration en CO2, obtenir une constante de vitesse de la réaction cinétiquement déterminante. Vous voyez ici que vous avez une droite de cette constante tirée de ces courbes en fonction de la concentration. Donc la réaction est d'ordre 1 par rapport à CO2. Vous pouvez faire la même chose en faisant varier cette fois-ci la quantité d'acide que vous ajoutez pour faire l'étape de coupure de la liaison CO. Donc ici, c'est un réseau de courbes de bas en haut avec des concentrations de plus en plus grandes en phénol et les droites correspondantes ici obtenues. Donc vous voyez que vous avez des exaltations catalytiques qui peuvent être absolument considérables. On peut faire ça avec de l'acide acétique. Et alors on obtient des choses qui sont évidemment un peu plus complexes peut-être, un peu plus difficiles à analyser, que ce qui se passait simplement lorsqu'on faisait varier la concentration en CO2. On a des ordres réactionnels qui dépendent de la concentration en acide. Par exemple, si on regarde ce qui se passe avec du phénol, j'ai inversé phénol et trifluoroéthanol, donc on va dire, oui, le phénol c'est là, pardon, donc il faudrait inverser ces deux petites légendes ici. Donc, le phénol, c'est ces deux graphes ici. Vous voyez qu'on a, d'abord un ordre 2, puis quand la concentration augmente, on a un ordre 1 en phénol. Donc l'ordre réactionnel change lorsque la concentration d'acide change. Alors il n'y a pas d'autre solution à ce stade-là que de considérer la réaction dans toute sa complexité. Et sa complexité, elle est là. Alors c'est complexe et en même temps, c'est pas très complexe. Si on distingue un petit peu les différentes étapes, eh bien ça commence comme je vous l'ai indiqué, il faut mettre un électron sur fer 1 pour faire fer 0. Le fer 0 a un grand appétit pour le dioxyde de carbone et se coordonne au dioxyde de carbone avec une certaine constante de vitesse. Ensuite, ce CO2 coordonné au fer, eh bien, il est entouré de tout un tas d'acides. Il y a de l'eau, il y a toujours un peu d'eau résiduelle dans votre solvant, il y a l'acide que vous avez rajouté, et puis il y a CO2 lui-même. CO2, je ne l'ai pas encore dit, mais vous le savez, c'est un acide lui-même, l'acidification des océans. Tout le monde sait ça. Donc CO2 peut aussi jouer le rôle d'acide. Donc tous, l'eau résiduelle, l'acide que vous avez ajouté et CO2 peuvent jouer ce rôle d'acide pour casser la liaison CO. Donc il faut considérer l'ensemble de ces réactions. Malheureusement, on ne peut pas en faire l'économie, dans lesquelles vous allez d'abord avoir une association de l'aduit entre le fer et le CO2 avec son acide. Ces petits traits, ces petits pointillés ici désignent une association faible, ce qu'on appelle une liaison hydrogène entre le fer CO2 et puis les acides qui l'entourent. Et puis dans le rectangle vert, vous avez toutes les réactions qui aboutissent à la formation du fer 2CO, le CO étant libéré ensuite dans la dernière étape de réduction de ce fer 2CO par réduction à un électron. Vous libérez ici la petite bulle de CO. Donc ici, ce sont toutes les réactions qui vont utiliser les différents acides, l'eau, CO2, le phénol, par exemple, si j'ai rajouté du phénol, et qui vont vous permettre de casser la liaison carbone-oxygène. Donc toutes ces réactions sont caractérisées par une constante de vitesse et une constante d'équilibre. Donc vous pouvez, en travaillant ces équations, écrire une constante de vitesse apparente. Alors c'est vraiment un petit peu barbare, mais c'est pour quand même vous montrer on va dans la salle des machines, hein, en quelque sorte. On rentre dans les soutes et puis on regarde la technique de cette chose-là. C'est des mathématiques algébriques tout à fait élémentaires. Il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps de vérifier ce que vous avez écrit. Mais on peut exprimer la constante de vitesse, celle qu'on a tirée des voltammogrammes, en fonction de tous ces événements qui ont lieu dans la solution. Alors, heureusement, les choses se simplifient grandement. Par exemple, si vous avez un acide relativement fort dans la solution, comme le phénol ou l'acide acétique, eh bien, il y a tout un tas des termes de cette équation qui se simplifient. Et quand on regarde les choses un petit peu précisément, eh bien, il n'en reste que quelques-uns. Ce sont les termes qui sont là à la fin de cette immense parenthèse et qui sont liés à l'association entre le fer et le CO2, à l'association par K2 et K-2, ce sont les associations par liaison hydrogène entre l'adduit et l'acide, et la constante de vitesse de la catalyse, qui va dans ce cas-là être la constante de vitesse de l'adduit, ici, avec une molécule d'acide, ça c'est K3. Donc quand vous avez un acide fort, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait fer 0 plus CO2, ça fait votre adduit. Cet adduit, c'est lié par liaison hydrogène avec une molécule d'acide, et avec une molécule d'acide supplémentaire, vous cassez la liaison. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est dominant, parce que c'est l'acide qui est le plus fort. Et donc l'équation, c'est ça. Et donc là, vous voyez bien que si la concentration d'acide est toute petite, ce terme-là va être négligeable et vous allez être ordre 2 en acide, c'est ce qu'on a trouvé expérimentalement. Si au contraire la concentration d'acide devient très grand, ce terme-là devient dominant vis-à-vis de celui-ci et vous êtes en AH carré sur AH, vous êtes en ordre 1. Et c'est ce qu'on voit expérimentalement. Donc on est ordre 2 puis ordre 1. C'est ce qui se passe avec le phénol. Donc de ces constantes de vitesse observées, en fonction de la concentration en acide, eh bien, vous allez en déduire, en particulier quand vous êtes en petite concentration de phénol, par exemple, vous allez déduire K1 fois K2 sur K-2, c'est-à-dire K1 fois grand K2 fois petit K3. Donc la constante observée et tirée des voltammogrammes est directement proportionnelle à petit K3, la vitesse de la réaction catalytique, la vitesse de coupure de la liaison carbone-oxygène. C'est ça que vous allez tirer des voltammogrammes. Donc là, vous avez une information cinétique essentielle. Vous avez la vitesse avec laquelle cette liaison carbone-oxygène est rompue des voltammogrammes. Et vous pouvez comparer ça pour plusieurs acides. Donc c'est ce qu'on a fait ici, où lorsqu'on est en ordre 2, eh bien, quel que soit l'acide, on a grand K1, grand K2 fois K3, c'est-à-dire qu'on a une information cinétique sur la réaction élémentaire de coupure de la liaison carbone-oxygène, et vous voyez que cette constante de vitesse diminue lorsque le pKa de l'acide augmente, lorsque l'acide est de plus en plus faible. Non seulement on peut dire ça, mais en plus on a une pente ici, et vous voyez que cette pente elle est très très particulière, pour ceux qui s'y connaissent bien en chimie, c'est une pente de moins 0,35, c'est assez inhabituel. Et ça dit qu'on a une étape qui est dominée par un transfert d'électrons intramoléculaires qui est très lent. Et il est très lent parce qu'en fait, il est tellement associé intimement qu'il est concerté avec la coupure de la liaison. Donc en fait, non seulement on a des informations cinétiques sur cette étape ici K3, qui est l'étape de coupure de la liaison carbone-oxygène, mais avec cette pente, on est même capable de dire que non seulement c'est l'étape cinétiquement déterminante et qu'on en a mesuré la vitesse, mais qu'en plus, quand cette étape a lieu, elle a lieu avec un transfert d'électrons du fer vers une des deux liaisons carbone-oxygène et que ce transfert d'électrons intramoléculaires est couplé de façon concertée à la coupure de la liaison carbone-oxygène. Donc on peut aller très très loin dans l'analyse moléculaire de ce qui se passe. Alors voilà un exemple précis. Vous voyez, j'ai été très très loin, poussé l'explication technique jusque dans ses retranchements pour essayer de comprendre comment ça marche. On a vu qu'à partir des voltammogrammes, on pouvait en tirer des constantes de vitesse, que ces constantes de vitesse étaient liées à des étapes bien précises de la catalyse, et on a même été capable de dire la façon dont la liaison carbone-oxygène se coupait. Alors maintenant, si on regarde ces systèmes-là, on peut se dire « Ah, c'est pas mal, j'ai l'impression là, que quand vous ajoutez beaucoup d'acide, la catalyse elle devient très vigoureuse. » Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ajouter plus d'acide encore ? Mais pour ajouter plus d'acide, vous pouvez continuer d'augmenter la concentration d'acide dans votre solution, mais vous êtes limité quand même relativement rapidement par la possibilité de votre solvant de solubiliser cet acide. Donc une deuxième solution, ce serait de dire « Mais mettons l'acide sur le catalyseur. » On sait que cet acide est important, est-ce qu'on ne pourrait pas d'une façon ou d'une autre le mettre à côté du métal qui fait le travail de catalyse de réduction de CO2 ? Donc c'est ce qu'on a fait en rajoutant, vous voyez ici, sur notre petite porphyrine, des groupes OH sur toutes les positions ortho-ortho-prime, on en a 8 ici. Et alors là, ce qu'on voit, c'est une augmentation absolument spectaculaire de la catalyse. Voilà ici la vague du catalyseur tout seul, et voilà un petit peu les courants qu'on obtient avec ce nouveau catalyseur. Il faut toujours un petit peu d'acide exogène, je reviendrai là-dessus dans une seconde. Et là, vous voyez qu'on a des courants qui sont absolument énormes. On a des exaltations catalytiques qui sont très fortement amplifiées par rapport au système précédent qu'on a pu voir. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous voyez qu'on a aussi un déplacement de la vague. Alors là, ça ne se voit pas très bien, mais on a un déplacement de la vague vers des potentiels moins négatif, c'est-à-dire qu'il faut mettre moins d'énergie au système pour déclencher la catalyse. Donc on gagne en courant, on gagne en surtension. Est-ce qu'on perd en efficacité ? Eh bien non, on a quasiment des rendements, on a des rendements faradiques qui sont de l'ordre de 100% avec formation exclusive de monoxyde de carbone. Et on a des systèmes catalytiques lors d'électrolyse qui montrent une très bonne stabilité, même après plusieurs heures de fonctionnement. On pourra rediscuter tout à l'heure ces histoires de TOF et de TON, c'est très important, avec des fréquences de turnover qui sont extrêmement, extrêmement élevées. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que si on remplace ces groupes OH par des groupes méthoxy, c'est la courbe ici en rose. On passe de rouge à rose. Vous voyez qu'on perd considérablement en surtension, on perd considérablement en courant. Donc il y a un rôle absolument crucial de ces groupes OH qui vont aider à stabiliser l'intermédiaire, c'est-à-dire que lorsque CO2 va venir s'accrocher sur le fer zéro, il va très probablement y avoir une stabilisation très forte de ce CO2 par les OH entourants. Alors, à nouveau, on peut faire une analyse détaillée des voltammogrammes. Alors, le temps a passé. Les principes mis en œuvre pour analyser ces voltammogrammes sont identiques à ceux que j'ai déjà décrits. Donc, je vais passer plus vite. J'avais prévu de, à nouveau, passer un petit peu de temps pour vous expliquer comment on fait, mais je vais aller directement au message qu'on peut tirer de ces différentes analyses. Alors, le message est le suivant. Et c'est intéressant parce que ça va me permettre d'introduire des choses dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent, qui est la modélisation moléculaire. Vous savez que quand on regarde un mécanisme, on peut s'y intéresser par une série de techniques expérimentales. On peut essayer de mettre le système en équation, si on a des équations de la cinétique, par exemple. Mais on peut aussi confronter ces idées et ces schémas mécanistiques proposés sur la base d'expériences avec des calculs de modélisation moléculaire. Donc on a employé des techniques dites de fonctionnelles de la densité qui permettent de calculer les structures des molécules à l'aide de calculateurs. Et voilà ce qu'on voit. Et ce que l'on voit est finalement parfaitement parallèle de ce que l'on peut tirer de la voltammétrie cyclique et des expériences. Donc je ne refais pas toute l'analyse en détail, je vous donne simplement le résultat pour ceux qui sont intéressés par la mécanique des choses. On pourra y rentrer, mais à ce moment-là, on peut en discuter après ou à un autre moment. Donc vous avez ici votre porphyrine de fer, donc vous reconnaissez ici, alors c'est le cycle porphyrinique vu de côté, là, et puis là, il y a un OH au-dessus et puis un OH en dessous du cycle. Donc là, vous imaginez on voit peut-être même encore mieux là, le cycle porphyrinique est ici. Alors, une molécule de CO2 arrive et donc va se mettre sur le dessus. Elle va être coordonnée ici au fer qu'on ne voit pas très bien, mais qui est un atome ici en violet clair. Donc le CO2 arrive et il est tordu comme ça. Hop. Alors une fois qu'on a fait ça, vous avez un intermédiaire qui est très stable. Donc pour que la liaison se casse, contrairement à tout à l'heure, il faut rajouter un deuxième électron au système. Sinon la catalyse ne se fait pas. Parce que là, vous avez un effet absolument considérable de stabilisation du CO2 par ici la proximité de cet hydrogène et de celui-là, c'est ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, ça stabilise énormément le CO2. Donc il va falloir mettre cette fois-ci un deuxième électron pour casser la liaison CO. Ça ne va pas se faire en un coup comme ça s'est fait tout à l'heure avec la porphyrine de fer non substituée. Et pour faire ça, évidemment, on ne va pas faire ça sur cet intermédiaire-là, mais on va faire ça sur un intermédiaire qui va être protoné pour que le transfert d'électrons se fasse bien. Donc ce qui va se passer, c'est une deuxième étape où vous allez déplacer ce proton ici, vous allez le mettre sur CO2, vous voyez cette petite boule blanche ici, hop, elle passe sur l'oxygène de CO2, donc vous avez une protonation intramoléculaire qui est relativement rapide, pas très favorable, mais relativement rapide, suivie d'une protonation de cet oxygène qui est devenu au moins par une molécule de phénol qui joue ici un premier rôle pour protoner cet oxygène ici. Donc vous avez protoné, en fait, vous êtes passé de là à là, en mettant un proton ici sur le CO2. Et là, cet intermédiaire-là va prendre un deuxième électron. Va être réduit à ce moment-là, vous allez couper la liaison ici, carbone-oxygène, à l'aide d'une deuxième molécule de phénol. Vous allez ainsi générer une molécule de fer 1 qui va re-rentrer dans le cycle catalytique avec un électron. Une molécule de CO et une molécule d'OH-. Donc vous voyez que, à partir de ces calculs-là, qui viennent à nouveau en parallèle et qui viennent corroborer les études de voltammétrie cyclique, on a pu mettre à jour un double rôle de ces groupes OH. Ces groupes OH servent d'une part à stabiliser le CO2 pour faire l'adduit entre le fer et la molécule de dioxyde de carbone. Et ça tire la réduction vers des potentiels moins négatifs qu'avec l'affaire TPP. Et dans un deuxième temps, ces groupes OH jouent aussi le rôle de donneur de protons. Ils jouent le rôle de donneur de liaison hydrogène dans cette première étape de coordination. Ils jouent le rôle de donneur de protons dans cette deuxième étape dans laquelle vous allez protoner votre intermédiaire pour que la liaison CO puisse se casser. Alors, un mot sur le benchmarking et je conclurai. Donc, la comparaison des catalyseurs, là aussi, je ne vais pas détailler les choses. Ce qu'il est important de comprendre, Marc Tfonka l'a très bien dit, ce qu'on est capable de faire, c'est de tirer des voltammogrammes, des images mécanistiques relativement précises et des constantes de vitesse des réactions cinétiquement déterminantes. À partir de là, qu'est-ce que vous allez tirer pour comparer les catalyseurs entre eux? Vous allez pouvoir calculer des fréquences de turnover avec les constantes de vitesse. Fréquence de turnover, c'est-à-dire des nombres en secondes moins 1 qui vous indiquent à quelle efficacité, avec quelle vitesse votre catalyseur fonctionne. Si vous multipliez ces fréquences de turnover par des temps, vous avez des turnover numbers, des nombres de turnover, ce qu'on appelle des TON. À condition, et à condition seulement, que pendant le temps que vous multipliez cette fréquence de turnover, votre catalyseur est stable. Donc ça va être des turnovers théoriques. La fréquence de turnover va vous dire intrinsèquement comment est votre catalyseur et vous allez pouvoir la calculer quel que soit le surpotentiel. Donc vous pouvez calculer, vous pouvez comparer tous les catalyseurs au même surpotentiel en fonction de leur fréquence de turnover. Et là, vous avez une comparaison juste et honnête des catalyseurs. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, ça ne vous dit pas si votre catalyseur est stable dans le temps. Et là, il va falloir faire des électrolyses. Et là, c'est compliqué, parce que les électrolyses ne sont pas faites toujours dans les mêmes conditions. Les gens ne regardent pas forcément à quelle vitesse se dégrade leur catalyseur. En théorie, si vous multipliez votre fréquence de turnover par un temps, vous avez le turnover number théorique. En pratique, ça ne marche pas. Je ne connais pas d'exemple de catalyseur où on puisse comme ça simplement extrapoler en multipliant par une une certaine durée de temps. Non, il faut faire la manip, regarder la quantité de produits réellement formés jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de catalyseur, et diviser par la quantité initiale de catalyseur que vous aviez. Et là, vous avez un vrai turnover en termes de nombre. Par contre, en termes de qualité intrinsèque, vous allez pouvoir placer tous vos catalyseurs sur un graphe comme celui-là, où en haut à gauche, vous avez les champions du monde, en bas à droite, vous avez les catalyseurs qui ont lamentablement échoué à leur BEPC, et qui donc vous indiquent en fonction du turnover, en fonction du surpotentiel, la fréquence de turnover. Donc vous voyez que chaque catalyseur est caractérisé par une courbe spécifique qui caractérise ses qualités. Et par exemple, vous pouvez vous dire, bon, ben, je les regarde tous à surpotentiel nul, celui qui est le plus haut sur cette échelle, c'est lui qui a les meilleures capacités intrinsèques. Ou alors je les compare tous à un surpotentiel de 0,5 volts, celui qui est le plus haut, c'est celui qui a les meilleures capacités. Maintenant, est-ce que ça va être lui le plus durable ? Ça, c'est une autre histoire. Et donc là, il y a tout ce lien entre la fréquence de turnover intrinsèque, les qualités du catalyseur et les turnover numbers qui peut se faire et qui mérite encore d'être approfondi. Alors ce diagramme ici est un petit peu approximatif puisque c'est celui qu'on avait initialement publié dans l'article à Science. On a depuis retravaillé sur ces travaux-là et une série de papiers va bientôt sortir pour essayer un petit peu de poser ça de façon plus rigoureuse puisque, en fait, cette relation, il faut le savoir, TOF en fonction du surpotentiel, dépend du mécanisme spécifique de chaque réaction. Donc il n'y a pas de relation universelle, il faut étudier le mécanisme propre à chaque catalyseur pour trouver ce petit graphe, par exemple ici en rouge, qui va caractériser un catalyseur spécifique. Donc les choses sont en fait compliquées et vont demander encore à ce que dans le labo de Marc Fontcave, de Vincent Artero, de Ronzi et d'autres, on continue à y travailler très sérieusement. Alors, pour terminer, quelques perspectives, et je vais essayer d'ouvrir sur un des séminaires à venir. Alors évidemment, une fois qu'on a bien compris le fonctionnement d'un catalyseur, mais une fois seulement qu'on a fait ce travail, on peut se dire que pour des applications, il serait notamment particulièrement intéressant d'accrocher ce catalyseur sur des surfaces ou de l'associer à des matériaux poreux ou de faire encore plein d'autres choses de ce type-là, de faire des matériaux hybrides, par exemple, comme on commence à le voir dans la littérature. Et donc, par exemple, on pourrait imaginer utiliser notre porphyrine pour l'accrocher, vous voyez ici, sur une surface de carbone qui pourrait être de différentes formes. Et pour ça, c'est un travail qui est compliqué, puisque c'est un travail de chimiste particulièrement délicat et particulièrement complexe, qui consisterait, par exemple, à sur une électrode de carbone, mettre une petite sous-couche ici, avec ces liaisons triples carbone-carbone, qu'on va faire réagir sur un groupe azide N3 qui va être accroché sur la porphyrine ici et qu'on va associer ces deux morceaux par une technique de chimie qui s'appelle la chimie clique et qui va permettre, vous voyez, de faire un objet moléculaire accroché sur une surface de carbone et donc d'avoir un catalyseur que vous allez pouvoir transporter d'une cellule d'électrolyse à une autre ou sortir, re-rentrer dans votre cellule électrochimique et qui va donc devenir une sorte de matériau catalytique avec une partie conductrice et une partie qui fait le travail de catalyse de transformation de CO2 en CO. Alors on peut imaginer d'autres choses, d'autres types d'accrochage. Voilà un autre exemple où cette fois-ci, toujours avec notre catalyseur, eh bien, on va accrocher ici, vous voyez, ces molécules aromatiques qui sont des pyrènes et qui ont la propriété d'avoir une affinité par adsorption assez grande avec des surfaces de carbone. Donc vous allez pouvoir comme ça coller votre catalyseur sur la surface de carbone. Alors, non seulement on pourrait accrocher ces molécules sur des surfaces, mais on pourrait se dire, bon, l'électrochimie, c'est bien gentil, vous nous avez dit tout à l'heure que les centrales nucléaires, vous n'aimiez pas trop ça. Pourtant, en France, on produit de l'électricité avec les centrales nucléaires, donc là, vous faites comment pour amener vos électrons certes, les énergies renouvelables, mais enfin, bon, pour l'instant, c'est pas... Donc comment est-ce que vous pourriez faire pour essayer d'aller un petit peu au-delà ? Eh bien, un petit peu au-delà, ce serait non seulement accrocher le catalyseur sur une surface, mais utiliser de la lumière directement, et non plus un potentiel électrique viendrait-il de sources plus ou moins renouvelables, pour amener les électrons jusqu'au fer qui vont ensuite réaliser la catalyse. Donc une idée possible, et là c'est le travail de développer les idées développées par Julien Bonin qui vient juste de commencer ces approches-là, même s'il y réfléchit et qu'on y réfléchit dans l'équipe depuis assez longtemps. ce serait de coupler le catalyseur, qu'on voit ici, on ne voit peut-être pas très bien, de l'accrocher sur ici ce petit rectangle qui est symbolisé avec toutes ces couleurs et tout ce petit schéma, mais qui est en fait une électrode semi-conductrice, c'est-à-dire une électrode qui est sensible à la lumière et dans laquelle vous allez utiliser simplement la lumière visible pour promouvoir des électrons dans la bande de conduction ici. Donc vous allez avoir des électrons qui vont être des paires électrons-trous qui vont être créés, avec des électrons qui vont venir vers la surface de l'électrode pour réduire le fer. Et le fer, à ce moment-là, va pouvoir faire son travail de réduction de CO2 en CO ou éventuellement en hydrogène si vous avez des acides qui sont beaucoup plus forts. Et donc là, ce serait un pas supplémentaire de la catalyse supportée vers la réduction photoélectrochimique de CO2 et donc vers les carburants solaires. Et là, c'est un domaine en pleine effervescence, c'est un domaine qui pose des problèmes absolument redoutables, à la fois scientifiques mais aussi technologiques, très, 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 très profond. Et ce sera le sujet d'un des prochains cours de Marc, notamment essentiellement le dernier, avec comme orateur Mathias Beller, qui vient d'Allemagne. Et donc, on est tous impatients de voir ce cours et de ce que Marc von Kaff pourra nous en dire de stimulant pour alimenter notre propre réflexion. Et sur ces mots, je vous remercie de votre attention.